Hey, là, je suis tellement content là, qu'on va regarder Romains 8 en détail, mais la vue d'ensemble de Romains 8, il y a vraiment une bénédiction. Je sais pas si ça a pris le temps. Des fois, quand on regarde les choses à vol d'oiseau, là, ou tu sais, quand on se recule de la proverbiale, de l'herbe proverbiale pour regarder la forêt, là, Romains 8 est quelque chose de spécial là-dedans. On va faire ça aujourd'hui. Avec, et mon titre est audacieux, le plus, et je reprends, je cite notre frère qui vient d'utiliser un beau mot, le plus merveilleux chapitre de la Bible. Le plus merveilleux chapitre de la Bible. Et je crois vraiment, je vous dis, Romains 8, vous allez voir, il y a une culmination là-dedans de l'ensemble de la révélation biblique. C'est extraordinaire. Puis là, on va juste lire le verset 1 et le premier et le dernier verset. Okay? Parce que c'est avec ça que je fais mon intro. Puis je vais évidemment voir d'autres versets à travers le message, mais ça commence comme ça. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ça finit comme ceci, verset 39. Ni les puissances, ni l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc pourquoi c'est le plus grand, le plus merveilleux chapitre de la Bible? C'est justifié parce que c'est une perle de la parole qui nous révèle la grandeur de Dieu, de sa rédemption, de tout dans le fond ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on regarde simplement les raisons pour lesquelles c'est un chapitre si unique et fascinant de la parole de Dieu. La première raison, c'est simplement à cause du champ vaste de sa révélation, justement. Il nous révèle des grandes choses, ça ratisse large, pour le dire, dans une expression qui est connue. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ça. Ben, en fait, même si vous n'avez pas remarqué, je l'ai déjà dit. Mais là, je rajoute un élément nouveau aujourd'hui. Ça commence avec pas de condamnation, puis ça termine avec pas de séparation. Ça, hein, on a déjà parlé de ça. Mais entre les deux, nous avons l'assurance de la victoire. Nous avons l'assurance tant par rapport à nos combats internes, ça en parle dans les versets 5 à 17, que la pression externe, le chrétien, il y a de la pression externe, c'est avec le monde et le diable. Donc, la pression externe qui vient pour nous affecter dans nos vies. Donc, si on résume, pas de condamnation, pas de séparation, et entre les deux, et là je voudrais dire pas de défaite, mais c'est pas de façon absolue, je veux dire hey, j'ai une défaite, ça veut dire que j'ai pas vécu, non, mais quand qu'on pas de défaite dans le sens que lorsqu'on marche à la lumière de ces vérités là ça marche tout le temps, il y a pas de défaite, dis pas ça, hey, mais là j'ai une défaite dans ma vie, j'ai passé à côté, non, l'idée c'est que ça ici, ça nous montre vraiment c'est quoi la vie en Jésus-Christ, puis il n'y a pas de défaite lorsqu'on marche par l'esprit. Si on marche par l'esprit, on n'accomplit pas les désirs de la chair. Donc c'est ça l'idée. Pas de séparation, pas de condamnation, pas de séparation et pas de défaite. C'est ce que ce chapitre nous amène. On voit ça, c'est l'étendue de ce que ça nous révèle. Et dans le fond, c'est la totalité de l'expérience chrétienne. Parce que pour prendre des mots théologiques, le verset 1, quand ça dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, le mot théologique pour ça, c'est que nous avons la justification. C'est-à-dire que Dieu nous a déclaré juste. Pourquoi on n'est pas condamné? Parce que Dieu a dit, toi là, tu es maintenant parfait devant moi. Tu as la justice de Christ. Il n'y a plus de condamnation. Okay? Ça, c'est le bagage théologique qu'il y a. Ça, c'est le début de la vie chrétienne. Hein? C'est ce qu'on voit le début du chapitre. Puis la fin du chapitre, pas rien qui va nous séparer de l'amour de Dieu. Puis on y pense là, à travers les choses qu'on a vues là. Il y a des choses qui, ici-bas sur terre, avec la maladie puis tout ça, qui peuvent vraiment nous donner du temps très difficile. Mais l'idée ici, c'est que si ça commence avec la justification, ça finit avec la glorification. Parce que ultimement, dans la gloire, c'est là que ça va être la fin de toute misère chrétienne, mais j'aimerais aussi vous dire que la glorification, elle est même présente parce qu'on glorifie Dieu lorsque, dans toute cette opposition, dans toute cette pression qu'on peut avoir, qu'on est plus que vainqueur ici, maintenant, par celui qui nous a aimés. Donc, ça couvre vraiment le spectre entier de la vie chrétienne. C'est glorieux, pas de condamnation et pas de séparation. Et donc, Qu'est-ce qu'on peut aussi retirer de ça? On voit dans le fond que l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, elle est parfaite. Et c'est vrai, tu sais, quand on parle de la justification, on est vraiment justifié. Si vous êtes ici, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur, aux yeux de Dieu, vous êtes parfait. Vous avez la justice parfaite de Christ. Vous êtes en lui, parfaitement accepté, parfaitement aimé. OK, tout ça. Mais aussi, savez-vous que dans les versets 29 à 30, on doit remarquer quelque chose d'important. Ben, en fait, on va commencer à 28 parce que c'est tellement beau le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que le Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et remarquez bien le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est drôle parce que ça parle d'affaires dans le passé, ça parle d'affaires dans le présent, mais même les affaires dans le futur, ça en parle comme si c'était déjà fait. Ça nous parle des événements à venir comme étant déjà accomplis. Savez-vous que vous êtes déjà glorifiés? Parce qu'aux yeux de Dieu, l'œuvre est complète. On n'est peut-être pas encore dans la gloire, puis on n'en jouit pas encore de façon actuelle pour nous dans nos vies, mais Dieu parle de ça comme étant déjà accompli, déjà glorifié. Et entre ce début et cette fin de la vie chrétienne, 7 ans, l'éternité passée, l'éternité à venir. Et donc, on voit vraiment la grandeur, l'étendue, la vaste portée de l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est total, c'est complet. Et maintenant, j'en ai un point important, parce que là, on a vu les deux bouts, si vous voulez, le milieu, le fameux milieu. Les problèmes, les attaques internes, externes, on les voit dans les versets du milieu. Je disais tantôt les versets 5 à 7, on voit la présence du péché et de la chair. Savez-vous quoi? Même si on a un Dieu glorieux, dans lequel on n'a plus de condamnation, duquel on ne peut être séparé, on a encore des luttes en dedans. On a encore cette chair qui est là. Et aussi, la Bible est très réaliste, on est encore et toujours exposé à la souffrance extérieure, le rejet, l'opprobre de Christ, la pression du quotidien, les relations difficiles et toutes ces choses-là, OK? La Bible ici, elle en parle comme étant partie de la réalité à laquelle nous sommes confrontés, OK? Mais heureusement, ces versets-là nous donnent la solution, nous donnent l'issue de ces combats. C'est-à-dire que la solution, elle n'est pas dans la chair, qui est dans les versets 1 à 16. Savez-vous à combien de fois on voit l'expression « chair » comme dans le sens de notre chair? Là? 16 fois. Pensez-vous que ça dit « là, la chair, c'est bon, ça nous aide. » Non, c'est justement l'idée que la chair ne sert à rien. Ça nous parle aussi du péché à 4 reprises. Mais après avoir justement parlé de cette chair, ça nous parle aussi de l'esprit. 19 fois. Il y a l'expression de l'esprit qui est référée dans le chapitre 8, dont 15 fois dans les versets 1 à 16. Donc, il y en a plus pour le Saint-Esprit que la chair. Là, vous faites pas des, des grandes déductions avec ça, là. Mais, donc, on voit vraiment l'idée, la chair, l'esprit, donc, dans ce combat, dans ces luttes, c'est contre la chair et l'esprit. Mais savez-vous quoi? L'esprit est vainqueur. Et l'idée de dire que pas de condamnation, pas de séparation, puis pas de défaite, parce que Dieu a pourvu. Par l'Esprit, j'ai toujours la victoire. On le voit, regardez ici, là. Venez avec moi dans les versets 2 à 4. En parlant de l'Esprit, comment c'est la garantie de la victoire. « Or, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Puis là, ça parle de comment tout ça, ça se passe. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Et là, regardez, c'est au-dessus là que je vais porter notre attention, verset 4. « Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, Et là, c'est là que c'est important l'expression « qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit ». J'ai l'assurance de la victoire, de marcher dans la justice de Dieu, dans la loi parfaite de Dieu, lorsque je marche par l'esprit et non pas par la chair. Mes amis, c'est de ça qu'on parle. Quand on parle de cette vérité bénie de l'esprit de Dieu en nous, c'est lui qui nous garantit la victoire. À toutes les fois que je me confie en Dieu pour marcher par l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. Je vais marcher dans la vie, je ne vais pas marcher dans la mort. Ça, c'est garanti, c'est pas essayer d'embellir, c'est la victoire assurée. La part, c'est sûr que c'est notre foi, il faut qu'on se l'approprie cette victoire, mais à toutes les fois que je marche par l'esprit, je ne vais pas accomplir les désirs de la chair. C'est garanti, je veux dire, j'essaie pas d'embellir le passage, j'essaie pas de vous espèce de prêcher un évangile de la prospérité en disant « Ah, vous n'aurez jamais de problème. » Puis on a des défaites, mais ça, c'est quand on cède à la chair. Mais quand on cède à l'esprit, c'est toujours la victoire. Toujours. Ça, c'est garanti. Et c'est vraiment une vérité bénie sur laquelle on doit vraiment s'appuyer puis croire, parce que ça nous encourage à s'attendre à Dieu, à marcher par l'esprit, à se confier en lui. OK? Et donc, pour le dire autrement, c'est la solution au fameux cri, là. Ah, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais Jésus en toi, l'Esprit vivant en toi, c'est lui qui te délivre. Il va le faire à toutes les fois, dans toutes les situations auxquelles tu vas simplement te tourner vers lui, t'attendre à lui pour la délivrance. C'est la provision suffisante et abondante de Dieu pour toute les victoires. Et donc ça, c'est par rapport au combat intérieur. La chair et l'esprit, Dieu a pourvu, l'esprit de Dieu en moi, c'est pour ça la victoire assurée. Maintenant, la pression extérieure, la souffrance. C'est le thème de la deuxième section. Tu sais, on a les deux bouts, la première partie dans le milieu, là, lutte interne, OK? Après ça, on parle de ce qui se passe étant dans ce monde, étant des enfants de Dieu. Regardez par exemple le verset 23. 8:23. Et ce n'est pas elle seulement la création, mais aussi nous qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On est là dans ce monde, puis ça marche pas, c'est difficile, puis on a la maladie, on a toutes sortes de pressions, la souffrance. OK? Mais heureusement, on l'a lu tantôt, hein? Verset 28 nous rappelle que Dieu va tout se servir de toute cette pression-là, toutes ces circonstances-là, toute la décrépitude de ce monde pour son but ou ses buts, ou son grand but multifacette. C'est-à-dire qu'il va faire concourir toutes ces choses-là pour notre bien. C'est quoi notre bien? C'est d'être semblable à Christ. C'est que Christ soit formé en nous. Et même là-dedans, on peut être faible, hein, parce qu'on est faible dans ce combat-là. On peut trouver que la pression est forte. L'Esprit lui-même intercède. Voyez-vous comment encore là, Dieu a tout pourvu, puis encore là, c'est par le Saint-Esprit. Parce que comment il fait concourir à toutes choses, puis comment il nous fait supporter la pression, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous, qui vit en nous, qui nous fortifie, qui s'occupe d'absolument tout ce dont on a besoin. L'Esprit nous secourt dans notre faiblesse. Mais il reste une question, et ça c'est une grande question de tous les âges. Pourquoi le juste doit-il souffrir? Vous avez vu ça, hein, sûrement dans les psaumes, les proverbes, psaume 73, hey, « Seigneur, je t'aime », puis Job aussi, puis comment ça, moi j'ai tout le lot de la misère, puis le riche a de l'embonpoint, puis tout va bien, puis OK? C'est une grande question légitime. « Seigneur, je t'aime, puis j'ai peur à la souffrance, même plus on dirait que le commun des mortels. » Et bien que Romains 8 ne fournisse pas toute la réponse, parce que je vous ai parlé de Job, je vous ai parlé des psaumes, mais ça l'amène certainement des très bons éléments de réponse. Mais sur cette question, Romains 8 amène des éléments très importants de réponse. Puis, de la même façon que les problèmes internes là, qu'on a dans la première partie du chapitre, dans les versets 5 à 16, Dieu aussi a pourvu à la solution pour la pression externe. Et ça, c'est quoi? Si on a l'esprit en nous qui nous soutient, qui va vaincre la chair, ce même esprit, que va-t-il faire par rapport à la pression extérieure. Comment Dieu a pourvu par son esprit en nous pour faire face à la réponse? Voulez-vous la à la pression extérieure? Voulez-vous la réponse? Regardez le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent, ok, on est vraiment dans le thème de ce que je disais, là, les souffrances, la misère, la pression, ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Savez-vous, c'est le langage de quoi? Ça, c'est le langage de la foi. Ça, c'est l'esprit qui nous ramène à regarder. On ne regarde pas aux choses périssables, on ne regarde pas aux choses temporaires, on regarde aux choses éternelles, aux choses impérissables. L'esprit qui est en nous nous amène à regarder ces choses-là par la foi. Et évidemment, l'esprit est toujours en accord avec la parole. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'esprit nous ramène dans la réalité ultime de la parole. La parole, c'est la révélation de Dieu. Il nous ramène dans la révélation, dans la réalité de Dieu. Donc, lorsqu'il dit « j'estime », là, on dit, vous la connaissez celle-là, un contracteur qui vient chez vous, tu veux savoir un projet de rénovation, il dit « Monsieur, nous avons pour vous la plus haute estimation. » Vous avez déjà entendu celle-là? C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ça. Mais ici, quand qui estime, là, c'est pas comme le gars qui va chez vous qui vous donne la plus haute estimation. Là. C'est l'idée de faire le calcul, de regarder les choses, puis dire « Je regarde ça, là, puis j'estime, je calcule, je regarde... » L'ensemble de ce qui m'arrive par rapport à la souffrance, là, ça fait pas le poids par rapport à ce qui est à venir. Ça, c'est la foi qui dit ça. Que, oui, OK, on vit de la misère en ce moment, puis oui, on a le lot qui est commun à tous les humains, et certainement pour les chrétiens, l'opprobre de Christ, mais à comparer à la gloire, à comparer à la grâce de Dieu, puis tout ce qui est en lui, ça se compare pas. Un peu comme Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il était dans la souffrance, mais savez-vous quoi? Il avait les yeux sur son Rédempteur. Il n'avait pas perdu la foi, l'espérance que Dieu était là avec lui. Et j'ai dit tantôt, hein, c'est ça, ne nous perdons pas courage parce que on regarde aux choses éternelles, parce que les choses temporaires sont passagères, les choses visibles sont passagères, tandis que les choses invisibles sont éternelles. Et là, je vais emmener quelque chose, une application importante ici par rapport à ce que je viens de dire là. La lutte interne, chair, esprit, la lutte externe, la pression externe par rapport à la souffrance qu'on considère avec la foi. Voici ce qui est important à comprendre. Chacun ici doit arriver à cette conclusion pour soi-même. Quelqu'un ne peut pas, à notre place, avoir l'espérance que les souffrances du temps présent ne pourraient être égalé. Je veux dire, on peut être avec quelqu'un qui le vit, qui l'apprécie, puis qui s'en réjouit. Puis pour nous, ça peut sonner juste comme quelque chose de beau, mais qui ne résonne pas avec nous. C'est chacun. Le juste vivra par sa foi. Puis dans Habacuc, là, il souffrait. Ça allait mal. Il y avait de l'injustice. Il y avait des méchants qui allaient faire des choses. Oui, au peuple de Dieu qui allait être châtié, mais il y avait des justes là-dedans qui aimaient Dieu et qui étaient pognés dans l'eau de tous ceux-là qui mangeaient la claque. Mais c'est par sa foi que le juste devait vivre. OK? C'est ce qu'Habacuc, c'est le grand message d'Habacuc. Et donc, personne ne peut le faire pour nous, c'est-à-dire d'accepter la souffrance, même si ça n'a pas de bon sens, même si... on n'a pas choisi ça, OK? Ou pour le dire autrement, accepter la souffrance, même si on aime Dieu, même si on recherche, on le recherche lui, on recherche la vie, on recherche, OK? Dieu peut quand même envoyer la souffrance. Puis, on a un exemple là-dessus. Ben, je vais vous en donner deux. Mais Josué puis Caleb, ils aimaient Dieu, eux autres. Puis ils faisaient confiance que Dieu allait leur donner la terre. Mais il a fallu qu'ils attendent pareil 40 ans à cause des 10 incrédules. Pensez, c'était quand même pas juste, là. Ils aimaient l'Éternel, là, puis ils faisaient confiance. Puis ils l'ont dit à tout le monde, là. Mais il y avait cette pression-là, il y avait ces circonstances désagréables. Mais eux autres, là, savez-vous quoi? Il y avait la foi quand ils sont sortis après avoir espionné. Il a fallu qu'ils aient la foi pendant 40 ans de continuer à s'accrocher à Dieu, de dire que Dieu, il n'a pas fini avec nous autres. Puis effectivement, ils sont rentrés dans la terre promise. Ils ont eu la foi, puis Dieu a rémunéré leur foi. C'est un bon exemple, ça. Est-ce qu'il avait mérité quelque chose? Je veux dire, au contraire, toi, il avait fait confiance à Dieu, mais il fallait qu'il souffre pour le reste des personnes qui n'avaient pas fait confiance à Dieu. N'est-ce pas aussi le lot de Noé? Lui, il était pogné pour 120 ans, il était pogné pour faire un arche, tout ça, puis personne ne le croyait, puis c'est tout lui qui se donnait toute cette misère-là. Lui, il aimait l'Éternel, puis il croyait, là, puis c'était le jugement qui tombait sur le monde, mais lui, là, lui, il ne méritait pas un jugement dans le sens que, je veux dire, tu sais, c'était pas la méchanceté au comble que lui vivait. Je veux dire, c'était un pécheur, là, puis tout le monde mérite le jugement de Dieu, mais ce jugement qui tombait sur la terre, c'était pas lui directement qui avait... Comprenez-vous? Ça lui a donné bien de la misère, là. Mais il acceptait par la foi. Accepter la souffrance, l'injustice par la foi. Joseph, un autre exemple. Joseph, bon, il était un peu pense-bon, un peu baveux. Hey, je fais des rêves, puis ça. Mais il devait le trouver tannant, le petit jeune, là. Mais je veux dire, en même temps, Dieu il avait montré des visions, des rêves. Je veux dire... Puis c'était rédempteur, là, tu sais. Ça montrait que tu vas être celui que je vais utiliser pour la rédemption de mon peuple et les préserver. Puis, si tu veux, il n'a pas choisi ça, là. Il était jaloux, mais là, ça a viré. Job, je n'ai parlé tantôt. Paul, je veux dire, il y a tellement d'exemples de personnes qui, à cause qu'ils aiment Dieu, à cause qu'ils ont voulu être fidèles à lui, ont se fait toutes sortes de choses, d'injustices. Mais n'oublions pas que Dieu a récompensé grandement, richement, abondamment tous ces héros de la foi. Ça a duré un temps que ça a été dur, puis il y a eu la pression puis la souffrance, mais ça a duré un temps. Dans tous les exemples que je vais donner là, Dieu les a tous rémunérés. Il leur a tous donné le salaire de leur foi. Ils n'ont pas cru en vain, ils n'ont pas persévéré dans la foi en vain. Et ça, c'est ça le grand... La grande leçon de la deuxième partie de Romains 8, du cœur de Romains 8, là, que non seulement à toutes les fois qu'on marche par l'esprit, on va vaincre la chair par rapport à la lutte intérieure, mais par rapport à cette pression de l'extérieur, à toutes les fois qu'on se confie en Dieu, qu'on persévère, parce que des fois c'est facile de croire en Dieu, là, ok, tu sors d'avoir espionné, là, puis hey, let's go, on y va. Mais quand ça fait 40 ans que t'attends avec cette gang de cabochons-là qui ont tous voulu faire à leur tête, ben, tu commences à être tanné, là. Peut-être que ça le dit pas, mais tant qu'eux autres aussi ont demandé le feu du ciel, je sais pas trop, mais hey, 40 ans, c'est long, là, puis ils en mangeaient de la manne, eux autres aussi, là. Eux autres, ils pensaient, hey, moi, je mangerais des raisins, puis du lait et du miel, puis ils étaient pas capables de manger comme toutes les autres. C'est quand même assez ordinaire, là. Mais c'est par la foi. Et quand on regarde, c'est ça le grand message d'Hébreux 11. C'est des gens qui, parce qu'ils croyaient, souffraient. Avez-vous vu dans Romains 11, c'est plein de souffrances partout. Même qu'à la fin, il y a une espèce, ça les nomme pas, parce qu'au début, ça les nomme, là. Mais à un moment donné, là, ça nomme juste ce qu'on fait, puis on devine, ah, il y en a que c'est Esaïe qui était scié en deux, un autre, tu vois Samson, puis il y en a que tu reconnais, là, des affaires, bien, Samson, ça le nomme. Mais toute la gang, c'est toutes des gens qui, à cause qu'ils étaient chrétiens, qui étaient... Qui avait la foi en l'Éternel, il souffrait. Puis l'enduré, puis le point, c'est ça, c'est que, ben, c'était ça le point. Par la foi, il a enduré la souffrance. C'est ça le message principal d'Hébreux 11. C'est pas très vendeur, hein? C'est pas très évangile de la prospérité, hein? C'est carrément l'inverse. C'est ça que l'évangile de la prospérité, ça vient... Les Anglais disent « come from the pit of hell ». Je veux dire, ça vient... Non, mais c'est mensonger parce que le lot des chrétiens... Puis là, regardez ici. Je vais vous montrer que je n'ai pas pêché ça là, n'importe où à matin, là, après-midi. Alors, c'est où mon verset? Non, mais t'as peur, là, dans Hébreux 8. Là, je ne l'ai pas noté. Ça dit, à cause de toi, nous sommes... OK, excusez. Verset 36, regardez. Seul, bon, là, tu sais, ça parle, là, de qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ. Puis là, ça parle justement de toutes sortes de souffrances, la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité ou le péril ou l'épée. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la bouche. Ça, c'est un psaume, là. Ça, c'est l'Ancien Testament, là. C'était pas, là, juste du temps de Paul, là. Je veux dire, de toute époque, les enfants de Dieu à cause qu'il souffrait. C'est ça ici le point. Ils sont exposés à toutes ces affaires-là. Là. Il y a une nomenclature. Là. L'angoisse, la persécution, la fin de la nudité. Ça, là, c'est selon qu'il est écrit. Autrement dit, c'est authentifié par tout le pédigree des saints qui vous ont précédé. On subit ça à cause de toi. OK? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Autrement dit, c'est la normalité chrétienne, la souffrance. À cause qu'on est chrétien, on a une dose supplémentaire parce qu'on est haï du monde. Jésus l'a dit. Vous allez avoir des persécutions dans le monde, puis le monde vous haït parce qu'il m'a haï, moi, en premier. Je veux dire... Puis, pourquoi qu'on aime tant Romains 8? Parce que ça nous dit... Ah! OK, je ne suis pas tout seul à avoir vécu ça. Puis, savez-vous quoi? Malgré tout ça, Dieu, il ne m'a jamais abandonné. Même ça, là, c'est aucunement... la preuve que Dieu m'a rejeté. Parce que souvent, c'est ça qu'on se met. Coudonc, Dieu, tu m'as-tu abandonné? J'ai-tu fait quelque chose de mal? C'est ça. Regardez les psaumes, regardez Job, regardez les écrits de ceux qui sont dans la souffrance. C'est la question qui se pose. Ben, coudonc, Dieu, tu m'es-tu rendu défavorable? C'est pour ça que la fin est tellement appréciable. Dans toutes ces choses, on n'est plus que vainqueur, puis il n'y a rien de ces choses-là qui peuvent nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça qui fait comment c'est précieux, puis c'est à ça que notre foi s'accroche. Comprenez-vous? C'est tellement fort ce qu'on voit, c'est précieux. Et personne ne peut vraiment comprendre, ni vraiment nous aider dans notre souffrance, dans ce que nous on vit, parce que Dieu veut lui-même le faire. Dieu, comment des fois je l'ai dit? Des fois, je trouve tellement que je radote. Là. Des fois, je répète plein souvent les mêmes versets, mais la souffrance, là, c'est un rendez-vous de Dieu. C'est Dieu qui dit, je veux. C'est Dieu qui dit à Job, là, hey, je vais prendre une tempête, puis je vais te parler dans la tempête. C'est à ce point-là que je t'aime, Job. Là. J'ai tout ce trouble-là, là, mais là, je vais prendre les grands mots, aux grands mots, les grands remèdes. Je vais te révéler quelque chose sur moi de tellement époustouflant là, que la tempête va parler. Hey, je veux dire, on dit, il y a beaucoup souffert, mais qui s'est fait parler direct par une tempête, là? Pas surprenant qu'il se condamnait sur la poussière puis sur la cendre. Là. Il y avait toute une révélation de Dieu. C'est un rendez-vous. Job, là, c'est bienvenu au rendez-vous que Job avait avec son Dieu. À travers la souffrance, à travers l'injustice d'être accusé, d'être un malfaiteur, tout ça. Oui, il y avait de la justice propre et tout ça, mais je veux dire, Dieu faisait une œuvre, une belle œuvre. Et donc, chaque personne, chacun pour nous-mêmes, on doit arriver à la conclusion que Dieu se sert de la souffrance, que la souffrance a un but, que la souffrance est un rendez-vous, que la souffrance fait partie non seulement de la vie sur cette terre, mais spécialement de la vie des enfants de Dieu. Juste là-dessus, 2 Timothée, je vous le lis, là. Vous pouvez venir avec moi, 2 Timothée chapitre 3. Je veux dire, ça va dans le sens de ce qu'on a vu là. Que c'est la norme des enfants de Dieu. Puis ici, c'est pas juste parce que c'est l'apôtre Paul, là. Je veux dire, c'est normal pour un enfant de Dieu d'être exposé à la souffrance. Verset 10, 2 Timothée 3, 10. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Ah, là, si on arrête là, c'est le fun. Hey, tu as suivi plein de belles vertus. Tu as suivi des belles choses, c'est le fun. Mais regardez ce que ça dit, verset 11. Mes persécutions, ma souffrance. Timothée, je me suis investi dans toi. Tu as vu des belles choses, des vertus de Christ en moi qui ont été transmises, mais aussi l'opprobre de Christ. Aussi la souffrance. Parce que verset 11, mes persécutions, mes souffrances. Et à quelle souffrance je n'ai pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Or, le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça dit? Ça, c'est une promesse de la parole. C'est pas une promesse de Benny Hinn puis de Joel Osteen, là. Mais vous voulez vivre pieusement en Jésus-Christ, vous allez être persécuté, vous allez souffrir. Puis on n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu, il y a quelque chose de spécial là-dedans. C'est pas qu'on court après la souffrance, mais c'est qu'on s'y attend. Surtout, on s'attend à celui qui va se montrer. Quand Dieu se montre, tout est différent. N'est-ce pas? Est-ce que vous regrettez quand que Dieu vous a fait passer par des choses puis que vous avez découvert votre Dieu comme vous ne l'aviez jamais connu avant? on se rappelle la souffrance, puis on n'a pas le goût de revenir là, mais hey, on a-tu le goût de revenir au « wow » de Dieu? C'est ça, Romains 8. Puis rappelons-nous là, hein, parce que c'est souvent ce qu'on pense. Je souffre, donc Dieu n'est pas content de moi. Je souffre, Dieu me châtie. Puis la Bible enseigne le châtiment. Dieu châtie ceux qui aiment. Mais même quand il me châtie, c'est encore là, c'est parce qu'il m'aime. C'est pas parce qu'il m'aime pas. Il n'y a aucune souffrance qui est la preuve que Dieu m'aime pas. C'est la preuve que Dieu m'aime. Que vu que je suis son enfant bien-aimé, il me fait penser au creuset plus que quelqu'un qui le connaît pas. Parce que je suis l'objet de son affection. Il me fait penser par le même sort de trajet que son fils bien-aimé. Parce que Christ a souffert en toutes choses. Ça nous dit dans Romains, au chapitre 14, hein, encore là l'exemple de Christ, puis encore là toute l'idée que c'est normal que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est en vue de l'édification, car Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Et vous, la souffrance relationnelle, le fait de souffrir à cause qu'on est fidèle. Christ était fidèle en toutes choses, là, parfaitement. Là. Puis il subissait des outrages. Il était traité comme un criminel, comme un malfaiteur. Il était vu comme un menteur, comme tout ce qui est super honteux, puis en plus dans une culture d'honneur. Donc, la foi arrive à la conclusion, « Dieu, tu m'as aucunement rejeté. » La souffrance est plutôt la preuve que tu t'occupes de moi, que j'ai du prix à tes yeux, que tu m'aimes. Fait que, je sais pas pour vous, là, mais moi, c'est quelque chose vraiment que je trouve précieux, puis je veux prendre le temps de le regarder comme il faut avec vous autres. Fait que on va arrêter là pour l'instant. Je vais ouvrir pour des questions, parce que quand même des choses, mais après ça, la semaine prochaine, la prochaine fois, on va voir encore d'autres vérités. On n'a pas fini. On va voir encore d'autres choses par rapport à ce chapitre merveilleux. Juste la vue d'ensemble. Avez-vous des questions? Avez-vous trouvé ça pas pire, je veux dire, de considérer de même? Là. Au lieu de juste verset par verset, des fois, la vue globale. Là. Vous n'avez pas des questions? Ben, on va prier. Seigneur, merci. Je viens de me rendre compte, même à l'instant même, on a mis beaucoup l'emphase. En fait, tu nous as dirigé beaucoup dernièrement à considérer, c'est ça, la lutte entre la chair et l'esprit, puis la victoire qu'on a sur la chair par ton esprit qui vit en nous. Mais merci qu'il y a un autre aspect important qu'on a plus développé dans ce message, dans la deuxième partie de Romains. Que cette souffrance, que cette pression, que ce monde tout brisé dans lequel on est, puis dont on subit les conséquences, et souvent même infligé par nous-mêmes. Merci que l'Esprit qui vit en nous et ta parole qui vit aussi en nous, elle est vivante et c'est la semence qui nous a régénérés et qui grandit constamment en nous. C'est la clé pour la foi, pour considérer toutes ces choses avec espérance, avec la foi, la conviction que tout ça, c'est bon. Que rien de ça n'est la preuve que tu nous rejettes, que tu nous regardes d'un regard désapprobateur. Au contraire, par la foi, on voit qu'on est spécialement l'objet de ton amour par ces choses. Que tu nous fais prendre part à l'opprobre de Christ. Et comme ça dit aussi dans Philippiens 3, on n'a pas été voir ce passage-là, mais « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Mais il continue en disant « Et la communion de ses souffrances. » Merci qu'il y a un trésor là. Et c'est par la foi qu'on l'appréhende, c'est par la foi qu'on se l'approprie, le trésor de la communion de tes souffrances. Et ici, on est honnête, personne n'en aime ça souffrir. On n'aime pas ça, les choses qui vont contre ce que nous, on désire, puis la sécurité. Puis... Mais ce qu'on aime, Seigneur, c'est te découvrir là-dedans. Ce qu'on aime, c'est à quel point tu es précieux dans ces moments-là. Et pour ça, on te bénit, on te loue, notre Dieu. Et donc, par la foi, on veut répondre à cette pression, à ces choses, en te cherchant. en s'attendant à ce que tu, comme tu as fait avec tous tes serviteurs dont on a parlé dans ce message, que tu te révèles à nous d'une façon fraîche, nouvelle, unique. Et donc, merci Seigneur. Tu perds pas rien. Tu perds pas de temps, tu perds pas de circonstances. Tu fais tout, Seigneur, avec un but et t'es merveilleux. Merci que tu te révèles à nous à travers toutes ces choses. Merci pour les jeunes ici. Je suis tellement encouragé de l'œuvre que tu fais dans les jeunes. Je les vois là, puis ils écoutent ta parole, puis Seigneur, tu leur... On dit souvent que le monde est tout brisé, puis tout ça, puis certainement que les jeunes peuvent voir, il y a tellement de confusion, mais merci que tu les arraches de ce présent siècle mauvais. Merci pour l'œuvre que tu fais. On te bénit, on te loue, au nom de Jésus. Amen. Amen, c'est à votre